RCF.
Comment être heureux et goûter au bonheur? Cette question, vieille comme le monde, est encore d'actualité. Beaucoup d'hommes et de femmes recherchent à satisfaire l'insatiable désir d'être bien, en accord avec soi-même et avec les autres. Reste à savoir où trouver cet épanouissement. La tradition chrétienne répond à cette question avec un paradoxe. C'est en se perdant de vue que l'on se trouve, c'est en se donnant qu'une joie profonde nous est offerte. Et c'est justement de la joie dont il sera question cette semaine dans la série que je vous propose, en compagnie de Martin Stéphane, auteur d'un petit traité de la joie paru chez Salvatore. Martin Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, grand connaisseur de Nietzsche et de Simone Veil également. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre sur la joie? Depuis, il y en a eu un autre, mais effectivement, j'aimerais qu'on parle de celui-là.
De toute façon, les deux derniers livres sont sur la joie, même si le premier, le petit traité de la joie, est explicitement sur ce thème, ou plutôt sur le thème du consentement à la vie. Car la joie, si elle pose problème, c'est en tant que nous avons reçu quelque chose sans l'avoir demandé, notre existence même, et que ce régime de la passivité, de l'involontaire, nous suit toute notre vie, puisque on a reçu une éducation sans l'avoir demandé, on reçoit des épreuves sans les avoir demandées, tant et si bien que on peut se demander ce qu'on peut faire de cette matière première qui nous échoit. Et sans doute que le secret de la joie se trouve dans une certaine attitude de réception, de consentement vis-à-vis de cela qui commence même par notre vie propre.
Oui, vous ouvrez votre réflexion avec cette question. Comment accueillir une vie que je n'ai pas choisie? C'est fondamental que chacun d'entre nous puisse répondre à cette question?
Oui, je crois que c'est tout à fait fondamental. Bien sûr, beaucoup vont la trouver un peu surfaite comme question, en se disant « mais à quoi ça sert de se demander si je veux cette vie que j'ai reçue avant même de l'avoir demandée ?» Mais en réalité, je crois que la réponse qu'on apporte à ce présent qui nous précède, à ce cadeau qui nous précède, ou à ce fardeau qui nous précède aussi, la façon dont on l'accueille détermine le restant de notre vie. Et c'est pourquoi, effectivement, un philosophe comme Nietzsche, qui nous dit au fond que la façon dont on consent ou non à tout ce qui dans notre vie nous précède engage l'avenir, engage notre rapport au passé et au présent. Je crois que c'est quelque chose de fondamental en effet.
Mais la plupart du temps, on vit comme ça, automatiquement, sans se penser, pensant sur sa vie justement. Là, vous posez une question que beaucoup de gens ne se posent pas. On vit, un point c'est tout.
Mais c'est un peu le même défi que l'œnologue. L'œnologue va vous dire, mais d'accord, c'est bien beau de boire du vin, mais quelle qualité de présence mets-tu à ce verre dont tu fais ton repas? Bon, et je crois que effectivement, ça change tout. C'est-à-dire que ce qui change, ça n'est pas tant ce qu'on vit que la façon dont on habite ce qu'on vit. Ce qui change, ça n'est pas tant ce qu'on dit. On peut dire beaucoup de choses sans y penser. C'est la façon dont on habite sa parole. Et je crois que le grand défi, et même pour notre modernité technologique qui nous absente de notre propre existence, c'est de trouver à demeurer dans notre vie, à l'habiter, à y être de façon pleine et entière. Donc oui, peu de gens se posent la question du pourquoi de leur existence, peu de gens se posent la question de la contingence de leur existence, j'aurais pu ne pas être, mais ceci étant dit, c'est bien dommage, il y a quelque chose à acquérir ici.
Donc vous dites qu'il faut consentir à la vie. Qu'est-ce que ça signifie alors ?
Bien, ça signifie donc que si l'on part du fait que j'ai reçu cette vie sans l'avoir demandé et avec elle tout un tas d'épreuves et même de belles choses, hein, on dit tomber enceinte, tomber amoureux, c'est bel et bien qu'il y a des choses involontaires qui continueront de se jouer même après le simple fait de ma naissance. Mais si on prend acte de ça, de ce régime de l'involontaire, de la passivité, si l'on prend acte de ça, soit l'on se résigne, bon ben voilà, on choisit pas sa vie, c'est un peu l'option grecque, des Grecs tragiques, il y a un destin, voilà, il y a un destin qui parfois nous rattrape douloureusement, et il faut bien faire avec, comme on dit, bon, faire avec les épreuves qui nous échoient, ou bien, au lieu de baisser les bras, on ouvre les bras à ces épreuves. Et tout le livre s'intéresse à ce qui se passe quand on consent, c'est-à-dire quand on accompagne ce qu'on n'a pas choisi de notre propre volonté. Quand on dit à la façon de Beethoven, on ne sait pas pourquoi il a écrit ça sur une de ses partitions, il écrit ceci, « Muss es sein, es muss sein. Cela doit-il être ? Eh bien que cela soit. » C'est-à-dire que s'il n'est pas offert à notre volonté de choisir ce qui lui arrive, il lui est pourtant offert à cette volonté de vouloir ce qui s'est fait sans moi.
Martin Stephens, à vous entendre, donc il y a la vie telle qu'elle se présente à nous et nous pourrions ou pas nous y couler, nous laisser faire par cette vie, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il y ait du tragique ou pas.
Oui, je crois que ce qui est déterminant, ça n'est pas tant ce qui nous arrive que ce que nous en faisons. On voit bien avec les blessures que nous inflige le réel, ou bien ce sont autant de choses qui nous recroquevillent sur nous-mêmes, et c'est souvent ça d'abord, hein, comme le citron au contact de l'huître, on voit l'huître se rétracter, et c'est bien incompréhensible. Mais c'est peut-être dans un second temps, si on accepte cette blessure, eh bien un trou qui laisse passer une lumière, quelque chose qui nous permet de rejoindre l'autre dans sa propre vulnérabilité. Donc, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais du moins peut-on choisir ce que l'on fait de ce qui nous arrive.
Alors, vous dites que le consentement, c'est pas la résignation.
Non, parce que justement, dans la résignation, il y a une démission de la volonté. C'est-à-dire, on se dit, bon, ben voilà, je ne peux pas faire autrement.
C'est mon destin, je suis voilà. Comme ça.
C'est l'épreuve de ce qu'on appelle en philosophie la nécessité, c'est-à-dire ce qui ne peut pas ne pas être. On peut se résigner au fait de mourir un jour parce que l'homme ne peut pas ne pas mourir. Dans le consentement, il y a autre chose qui se joue. C'est-à-dire que cela même qui se fait sans moi, eh bien, je lui dis oui. Comme le disait magnifiquement René Char, tu ne peux pas te relire, mais tu peux signer. C'est-à-dire, il n'est pas dans ton pouvoir de relire le texte de ta vie pour y apporter telle ou telle modification. Ce qui a été, bon. Mais du moins, tu as ce pouvoir de signer, c'est-à-dire de dire, eh bien, ce qui a été, c'est très bien ainsi. Et cette bénédiction qu'on apporte à notre vie, bénédiction au sens littéral du terme, on dit du bien d'elle, eh bien, finalement, nous réconcilie. C'est un peu le pardon qu'on accorde à la vie et qui nous réaccorde à elle, qui fait qu'on va pouvoir à nouveau consonner à elle. Et je crois que dans le mot consentement, il faut le prendre là aussi et dans son sens le plus littéral. Le but, c'est de sentir consentement avec ce que dit le préfixe con, c'est-à-dire de à nouveau s'accorder à cette vie qui nous réserve bien des surprises.
Et vous dites que le pire, ce serait de pleurnicher sur ce qui est déjà passé et sur lequel on n'a plus d'emprise. Or, beaucoup d'entre nous pouvons avoir la tentation de regarder vers l'arrière, toujours. C'était mieux ou j'aurais dû.
Oui, c'est ça. J'aurais dû, c'est le conditionnel. C'est-à-dire que bien souvent, on donne des conditions à notre bonheur. C'est-à-dire, on dit, eh bien, si j'avais ceci ou cela, je serais heureux. C'est-à-dire que on oublie de conjuguer sa vie au présent. Celui qui parvient à dire, non pas je serais heureux si j'étais riche, celui qui parvient à dire je suis heureux parce que je suis. C'est-à-dire, il barre toutes ces conditions. Eh bien, cette personne, en se recevant dans la simplicité de son existence, reçoit le passé, le présent et l'avenir comme un présent. C'est-à-dire, il se donne la possibilité de vivre enfin au présent.
Et ça donne de la joie, ça?
Ah ben bien sûr, parce que ça donne la même joie, j'ai envie de dire, que quand un quiproquo est levé avec un ami et que du coup on se rend compte que on aurait mieux fait de se parler avant. Je comprends mieux ton point de vue, tu comprends mieux le mien. Il y a une joie qui se fait quand le malentendu est transformé en nouvelle entente. Eh bien, je crois qu'avec notre vie, il nous est très très souvent demandé d'avoir cette plasticité qui fait que, oui, il y avait une mélodie cachée, enfouie, que je n'entendais pas parce que moi j'étais là avec mon petit désir, et que dès lors que mon désir s'exauce, s'élargit à ce réel que je ne comprenais pas, eh bien, il m'apparaît dans sa cohérence. Et au fond, souvent, la cohérence de notre vie nous échappe, non pas parce qu'elle est de soi incohérente, mais parce que on ne prête pas assez notre oreille à cette mélodie captivante et difficile qu'est notre histoire.
Mais vous parliez des désirs, ou plutôt du besoin lié au bonheur. Aujourd'hui, on peut se dire « je serais heureux si j'ai telle femme, si j'ai telle voiture, si j'ai telle situation ». On est facilement embarqué dans ce mouvement-là.
Oui, c'est le mouvement d'une société de consommation, c'est-à-dire une société où l'on veut sommer le réel. Dans consommation, il y a quand même le verbe sommer qui est un verbe militaire. On somme le réel de correspondre à notre désir.
De se plier à notre désir.
Voilà, de se plier à notre désir. Et au lieu de rendre le monde disponible à soi, la pirouette fantastique, c'est de se rendre disponible au monde. Au lieu de rendre l'entièreté de la planète Terre disponible à nos petits désirs, eh bien, on peut se rendre disponible à elle. Et c'est vrai que dans ce petit traité de la joie, je montre comment l'expérience de la beauté est une authentique expérience du consentement. C'est Simone Veil qui, dans un de ses textes, dit que trouver beau quelque chose, que ce soit un tableau, un coucher de soleil ou le visage d'un enfant, c'est ne pas imaginer que la chose eût pu être autrement qu'elle n'est, aurait pu être autre chose qu'elle n'est sous mes yeux. Et donc, quand on trouve beau, au fond, on dit « cela est ». Et cela est bien que cela soit ainsi.
Martin Stéphens, à demain.